chez nous, et puis qui m'avait envoyé un email, et j'ai remarqué que ça fait la deuxième fois qu'il faisait ça, en annonçant le thème d'avance. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas? Alors, comme j'avais reçu le thème, j'ai envoyé un email. Alors, j'ai eu très peur à 10h15, parce que je me suis dit, ils ont eu peur de mon email ou quoi? À 10h15, on n'était pas très nombreux. Voilà. Mais je pense que, enfin, l'objectif, c'est un peu, ben oui, quand le Seigneur nous met sur le cœur quelque chose, on peut l'annoncer. Tous ceux qui ont un message à préparer par la suite, vous pouvez l'annoncer par email. Ça met en appétit, simplement. Je dirais, quelque part, hein, chacun de nos cultes doit être un événement qui nous met en appétit. Et l'idéal, c'est qu'on vienne de plus en plus au culte enthousiasmé pour ce que le Seigneur veut nous apporter, pas seulement par les messages, mais par la louange, par la communion, par les... Voilà. Et alors vraiment, là, je suis tombé sur un ouvrage et j'ai vraiment senti, mais c'est le Saint-Esprit qui m'avait conduit aussi à acheter cet ouvrage, sur le thème du chrétien contagieux. J'ai vraiment senti que oui, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut nous souligner, nous rappeler en ce moment. Devenons des chrétiens contagieux. Quel défi, hein? Devenons des chrétiens contagieux. Alors, il y a un transparent, comme ça va vous permettre de suivre point par point ce message, ça va nous aider. Alors, le titre, c'est Devenir un chrétien contagieux. Ouais, voilà, tout doucement. Et ah, t'as pas de feuille. Voilà. J'ai vraiment le sentiment que plusieurs de mes messages par la suite, je veux les donner sur ce thème aussi. Hein, être un chrétien contagieux. Alors j'ai mis redevenir. Quelquefois, hein, on l'a été, et puis il y a quelque chose qui s'est émoussé, quoi. Il y a quelque chose qui est devenu routinier dans notre vie chrétienne. Et ça, le Seigneur ne le veut pas, quoi. Hein. Bon, on a tous à se laisser reprendre à ce niveau-là. Hein. Alors, devenir un chrétien contagieux ou redevenir? Voilà le défi, ou redevenir. Alors, définition, contagieux, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre par ici pour pas être oublié, être ébloui. Voilà. Ouais, voilà. Ça veut dire qui se communique facilement. Une maladie contagieuse, une maladie qui se communique facilement. Ça veut dire qu'un chrétien contagieux, c'est un chrétien dont la foi se communique facilement aux autres. Beaucoup autour de lui ou d'elle sont influencés, au point même que plusieurs viennent à recevoir la foi et la partagent. Alors on pourrait dire autrement aussi, le chrétien contagieux, c'est un chrétien qui a un impact maximal. D'accord? On peut dire ça autrement aussi. Il y a un impact vraiment qui est maximum. Donc, comme je l'ai dit, mon intention, c'est de revenir sur ce thème parce que je sens vraiment que le Seigneur se préoccupe que nous soyons une église contagieuse. Et on ne peut pas traiter en une seule fois ce sujet. Il est vaste. Alors, on va se contenter aujourd'hui d'une seule question. Voilà. Bon, donc, tu peux baisser Annette. On a vu. Non? Oui, voilà. Non, non, c'est bon, oui, voilà. Non, tu peux remonter. Tu peux remonter, voilà. Bon, tu peux rester là, c'est bon, voilà. On ne s'est pas entraîné, on n'a pas répété ensemble, hein, donc voilà. On répétera après. Voilà. Pourquoi devenir un chrétien contagieux? Voilà. On va juste se cantonner ce matin à cette question. Alors, la première chose, ben, vous le voyez, parce que pour Dieu, chaque personne compte. Chaque personne compte. Alors, au plus profond d'eux-mêmes, je crois que tous les véritables disciples aspirent à devenir des chrétiens contagieux. Parce qu'ils savent instinctivement que c'est gratifiant de voir quelqu'un qui ouvre son cœur à Dieu. C'est gratifiant. Enfin, je ne sais pas, vous l'avez expérimenté? Quelqu'un, vous communiquez le message et quelqu'un reçoit. est sensible, reçoit votre message, ouvre son cœur à Dieu, c'est extrêmement gratifiant. Mais on ne va pas dans ce domaine entreprendre des démarches décisives dans la, et être résolument engagé dans la communication de l'Évangile, je pense, si on n'a pas saisi comment Dieu y considère la question aussi. Et comment pour lui, chaque personne compte. Chaque personne compte. Et tout à l'heure, Christine a dit, Dieu nous veut. Je crois que ça introduit bien le sujet. Dieu nous cherche, nous. C'est notre personne qui veut, hein, d'accord ? Mais pas seulement nous, mais chacun, chaque personne. Alors, on va retenir deux leçons. Tu peux baisser là, oui. Deux leçons. Tirer une de la science et l'autre tirer du monde des affaires. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Je l'ai trouvé comme illustration quelque part, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors le premier, le domaine de la science. Alors c'est un nom un peu compliqué, un peu barbare que j'ai trouvé, mais le principe anthropique, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, moi ça ne me disait rien du tout, Jacques peut-être, certainement. Le principe anthropique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un principe qui veut dire que quand on regarde le monde qui nous entoure, il semblerait que tout l'univers, le but de l'univers, soit d'entretenir et de nourrir la vie humaine sur la Terre. Alors comment on l'explique ? Voilà, par plusieurs points. Vous élevez, vous abaissez le taux d'expansion de l'univers de seulement 1 pour million, et cela éliminerait toute possibilité de vie. Si, autre chose, la distance moyenne entre les étoiles était un tout petit peu plus grande simplement, hein, des planètes telles que la Terre ne seraient jamais formées. Si elle était, cette distance, un tout petit peu plus petite, simplement, les orbites planétaires nécessaires à la vie n'auraient jamais existé. Si les proportions d'oxygène et de gaz carbonique dans l'air étaient légèrement différentes, aucun d'entre nous ne serait là, on ne pourrait pas respirer. Si on changeait un tout petit peu, simplement, l'axe d'inclinaison de la Terre, on gèlerait. Si on la change dans une direction opposée, on brûlerait. Un tout petit peu seulement. Et si on suppose que la Terre soit un petit peu plus près ou un petit peu plus loin du Soleil qu'elle ne l'est actuellement, et qu'elle tourne à une vitesse légèrement, mais très légèrement différente qu'elle tourne actuellement, eh bien, n'importe lequel de ces changements provoquerait des variations de température qui nous seraient fatales. Donc, la leçon qu'on tire de ce principe anthropique, hein, d'accord, c'est la suivante. Quelqu'un a dû faire beaucoup d'efforts pour tout combiner, de manière qu'on puisse jouir de la vie. Et la science moderne, en fait, insiste pour dire que nous devons, nous, cette toute petite planète au milieu de l'immense univers, et nous qui sommes là-dessus, nous comptons pour Dieu. Voilà, une leçon tirée de la science. Nous comptons énormément pour Dieu. Une autre leçon tirée des affaires. On parle d'une transformation radicale dans le monde des affaires. Alors, les meilleurs experts en parlent sous des expressions révolution du client ou pyramide renversée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement ? Eh bien, c'est de se dire que si on veut qu'une entreprise souhaite réussir à long terme, il faut qu'elle détourne son attention d'elle-même, voilà, on entend beaucoup ça dans le monde des affaires, et qu'elle concentre son énergie sur sa seule raison d'exister, le client. Hein, combien de fois, par exemple, on s'est senti peut-être un peu frustré lorsqu'on a essayé d'obtenir un service élémentaire dans une station de service ou au restaurant, ou à la banque, ou à la boulangerie dans une grande surface, et puis qu'en fait on n'avait pas ce petit service. Hein. La tendance peut-être de certaines organisations, qu'elles soient grandes ou petites, de se refermer sur elles-mêmes. Les employés qui dépensent de l'énergie à régler des problèmes internes, des divergences, des heurts parmi le personnel. Et quelquefois, ça se passe devant le client qui est planté, qui attend son service, hein, quelquefois. Hein. C'est pourquoi les experts, ils lancent un défi tout simple. Il faut retourner la pyramide et servir la personne au sommet, pas le patron, mais le client. Voilà. Alors, il n'est pas difficile de comprendre que les problèmes et les solutions du monde des affaires soient aussi liés à ceux de la communauté chrétienne. Quelquefois, dans la communauté chrétienne, on est tellement omnubilé par les problèmes internes, ou même les activités internes, qu'on peut oublier notre mission d'aller chercher les perdus. Et oui, c'est vrai. Vous ne trouvez pas qu'on peut l'oublier facilement ? Qu'on peut oublier d'atteindre les gens du dehors. En tant qu'Église, on doit focaliser notre attention sur l'objectif que Dieu nous fixe, les perdus. Et ils sont encore si nombreux. Alors donc, si la leçon que nous donne de tirer la science, c'est que nous comptons pour Dieu, la leçon que nous donne le monde des affaires, c'est qu'en quelque sorte, ils doivent compter, chacun doit compter pour nous aussi, chrétiens. Si tous comptent pour Dieu, la leçon du monde des affaires, ils doivent compter pour nous aussi. Alors j'ai entendu un témoignage, j'ai lu plutôt, un témoignage, tu peux baisser là, rapporté par Bill Idols, que, hein, Josette, tu t'en souviens, elle a écouté avec Gilbert Bilezikian en Besançon. Et Bill Idols raconte le témoignage d'un homme qu'il avait rencontré lors d'un voyage à l'étranger. Hein? Il fait un voyage à l'étranger et il retrouve une vieille connaissance chrétienne, hein, un chrétien. Et puis c'était au moment de Pâques. Et alors Bill Idols dit à ce chrétien, « Ah, alors tu te réjouis d'aller bientôt au culte de Pâques ?» Et alors la réponse de ce chrétien est étonnante. Il a dit ceci. Parce que bon, il savait qu'il allait régulièrement à l'église, donc il lui a posé cette question. « Oh, sûrement pas. Je ne mets jamais les pieds à l'église à Pâques. » Il reprit d'un ton sec, « Je ne vais pas à l'église à Pâques parce que je ne peux pas supporter tous ceux qui viennent une fois par an. » Tu vois, il s'habille somptueusement pour faire bonne impression, ils encombrent toute l'église et le parking. Qui ces gens croient-ils berner ? Pas moi en tout cas, et surtout pas Dieu. Cela m'énerve tellement depuis des années que j'ai cessé d'aller à l'église à Pâques. Je n'ai que faire de ces gens qui viennent une fois par an. Waouh ! Quel est le problème de cette personne ? Non seulement elle n'a que faire de ces gens, mais elle est persuadée que c'est le cas pour Dieu aussi, que Dieu n'en a rien à faire. Et les amis, est-ce que quelquefois, on peut glisser vers cette attitude ? Est-ce que quelquefois, on peut être en proie à de tels jugements de valeur ? Croyant tout savoir sur les personnes dont Dieu se soucie et celles dont il ne se soucie pas, et nous réduisons notre liste de ceux, des personnes dans lesquelles, pour lesquelles Dieu se soucie. Et peut-être, ça exclut bien des gens du dehors. Peut-être que Dieu nous demande de laisser hein, tranquille des personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas en souci, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut courir après tout le monde, je pense, non plus. Mais jamais se dire qu'une personne n'a cessé d'être en souci pour Dieu. Si beaucoup de gens en dehors de l'Église ne comptent pas pour Dieu, alors pourquoi allions-nous nous fatiguer pour tenter de les atteindre ? Alors écoutons l'enseignement de Jésus. On a vu deux leçons tirées de la science, du monde des affaires, témoignage d'un homme qui ne voulait pas aller au culte de Pâques et qui fait une erreur grave de jugement de valeur. Réécoutons l'enseignement de Jésus. Alors, si vous prenez, je vais lire le premier verset du chapitre 15, dans la version second, puis je vais le relire, et non seulement le premier verset, mais toute une, enfin, les trois paraboles qui suivent, dans une version un peu paraphrasée exprès, même commentée et paraphrasée, parce que je crois que ça parle davantage, tel que je l'ai trouvé dans un livre aussi. Alors, on se rend compte que ce problème de jugement de valeur était déjà présent dans les Écritures. Jésus se trouvait avec des péagers, et puis il y a un groupe de gens qui, sur le côté, murmuraient. Jésus, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait là avec les péagers? Les pécheurs, Voilà, au premier verset. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors, je vais reprendre cette lecture paraphrasée maintenant. Et je crois qu'elle va nous parler. Un jour où Jésus enseignait dans une zone urbaine assez étendue, il se trouva entouré d'une grande foule de gens irreligieux, parias, indésirables, sceptiques, des brebis galeuses, la lie de la société, et des gens dont Dieu n'avait certainement rien à faire. Un peu en retrait, un petit groupe de chefs religieux hochait la tête et se parlait à mi-voix. Il se plaignait du fait que Jésus, qui prétendait être le Fils du Dieu très saint, traîne avec cette sorte d'individu. Jésus connaissait le fond de leurs pensées. C'est pourquoi il fit bifurquer toute la procession vers l'endroit où se tenaient les super saints. Puis, d'un ton ferme et énergique, il se mit à raconter une série d'histoires révélatrices et percutantes. Il était une fois un homme qui avait 100 brebis, dit-il. Et pendant qu'il les gardait, l'une de ses petites boules de laine s'éloigna. Alors le berger laissa derrière lui les 99. Il partit rechercher celle qui était perdue. Il chercha jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Il la prit tendrement dans ses bras, la mit sur ses épaules et la ramena jusqu'à son troupeau. Puis il appela ses amis bergers et il dit, « Allez, faisons une grande fête, j'ai retrouvé ma brebis égarée. » Jésus s'arrêta quelques instants. Tout le monde retenait son souffle dans l'assistance. Il y avait aussi, reprit-il, une femme qui avait 10 pièces. Elle en perdit une. Alors elle alluma une lampe, balaya la maison, déplaça tous les meubles, chercha sans relâche jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et à ce moment-là, la femme était si heureuse qu'elle appela ses amis à venir se réjouir avec elle. Jésus fit une nouvelle pause et regarda autour de lui. Peut-être, se demandait-il, si ses auditeurs le suivaient toujours. Puis, il poursuivit. Un homme avait 2 fils, le plus jeune était ambitieux, il avait des rêves plein la tête, il avait envie de voir du pays, il voulait profiter de la vie. Alors il demanda à son père de lui donner son héritage à l'avance, et il partit pour un pays lointain avec de l'argent plein les poches. Il ne tarda pas à se trouver un tas d'amis pour faire la fête. Mais il se rendit vite compte que les amis qu'il s'était fait disparaissaient, dès qu'il n'avait plus d'argent. Un jour qu'il gardait des cochons pour essayer de gagner de quoi vivre, ce garçon déboussolé et en plein marasme finit par revenir à la raison. Il décida de rentrer chez lui et il s'imaginait qu'après avoir présenté des excuses à son père pour sa naïveté et son manque de maturité, il lui proposerait de devenir l'un de ses valets, car il savait qu'il n'avait plus le droit de se considérer comme son fils. Il se dirigea donc vers sa maison, son père qui avait passé plusieurs heures par jour à guetter le retour de son fils et à penser à lui, le vit lorsqu'il était encore loin de la porte. Et rempli d'espoir, il courut aussitôt sur la route pour l'embrasser. Le garçon commença à dire, « J'ai commis une terrible erreur, papa, et je ne mérite pas d'être ton fils. Mais son père l'interrompit. Chut, 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 allez, plus un mot. Je suis si heureux que tu aies fini par revenir à la maison. Et fou de joie, il organisa une fête grandiose. Il s'écria, invitez tout le monde, tuez le veau gras, apportez des habits neufs. Mon fils prodigue est revenu à la maison. Et ils firent une fête formidable. Alors, Jésus a regardé ses auditeurs droit dans les yeux. Et il s'est dit, trois histoires. Normalement, il devrait finir par comprendre. C'est la seule fois qu'il nous est rapporté que Jésus a raconté trois paraboles d'un seul coup. En général, il s'apercevait que ses auditeurs ne le comprenaient pas tout à fait et il voyait d'où venait le problème. Il racontait une histoire qui éclaircissait le sujet. Puis il s'arrêtait pour discerner quel point il devait traiter ensuite. Mais pas cette fois-là. C'était pas un jour comme les autres. Car Jésus était si exaspéré d'entendre les discussions des chefs religieux sur ceux qui comptaient pour Dieu et ceux qui n'avaient pas d'importance pour lui, qu'il dit en fait, je vais éclaircir ce point une fois pour toutes. Je ne veux plus qu'il y ait de confusion à ce sujet. Je vais raconter non seulement une, ni deux, mais trois histoires. Un tir en rafale pour être sûr que tout le monde comprenne qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Voyez, dans ces trois histoires, dans chacune d'entre elles, un élément de grande valeur manque. La brebis, qui était le gagne-pain du berger, la pièce de cette pauvre femme, et le fils, bien sûr. Je pense que les auditeurs, quand ils ont entendu ça, peut-être pas tous, mais certains, ont dû être écrasés par le poids de l'amour de Dieu, qui voit au-delà des péchés le pécheur qu'il chérit. Un amour si puissant qui peut endurer patiemment des années de résistance. Quelquefois, pour nous atteindre, Dieu a attendu des années de notre résistance. Ouais. Des années de recherche égoïste de nos plaisirs, de poursuite de l'argent ou de la puissance. Et face à tout cela, l'amour de Dieu dit, même si tu t'es écarté du droit chemin, tu comptes pour moi et tu compteras toujours, toujours. Pour Dieu, chaque personne compte. J'ai l'impression qu'on a besoin d'être saisi à nouveau de cette révélation. Et tu peux baisser le point suivant, l'enseignement de Jésus. Notre témoignage tiré de notre propre vie d'église. Je me souviens des débuts passionnés de l'église de Wavrin, où nous n'avons pas voulu rester dans un cercle fermé à Lille, mais nous avons voulu que l'évangile pénètre nos villages. Et je me souviens de cet amour passionné. Et quand on est saisi, je crois qu'on était bien saisi de cette révélation que pour Dieu, chaque personne compte. Et dans ces cas-là, quand on est saisi cette vérité, il y a le Saint-Esprit qui vient. L'Esprit de Dieu, il est à l'aise dans ce souci, parce que c'est le souci de Dieu. Il y a une onction qui vient. Je me souviens de ces hommes qui venaient, qui avaient tout perdu, là, des petites haies. Joël, tu t'en souviens? Et Dieu mettait son onction. C'était même une catholique qui amenait ces hommes qui avaient tout perdu. Je me souviens, pendant quelques années, il y a eu un temps de grâce sur l'église où on pouvait citer des prénoms, des Marcel, des Corinne, que Dieu touchait. Clac, 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 clac. Que Dieu cherchait et touchait. C'était un temps de grâce, parce que quand on a cet amour passionné et cette conscience que chaque personne compte, on ne peut plus connaître la routine. Il y a une onction de Dieu qui arrive. Je me souviens des moments, alors je ne dis pas ça pour dire actuellement on ne vit pas ça, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre cela depuis un an et demi, à peu près. J'ai l'impression. Peut-être entre deux, on a eu des temps où on gérait tellement de problèmes à l'intérieur qu'on était en train d'oublier la mission. on tombait dans le problème du monde des affaires, d'accord? Du monde des affaires préoccupé par les problèmes internes et pas par le client. Et je crois que ces moments-là, souvent, sont les moments les plus secs. Quand on a perdu la conscience de notre mission principale, qui est sur le cœur de Dieu. Mais rappelez-vous, il y a un an et demi, quand on a vu ce DVD-là sur Heidi Baker à Paris, qui d'ailleurs a connu comme nous des galères avant de vivre un réveil extraordinaire au Mozambique. Là. Elle disait que pendant des années, elle s'occupait de deux églises qui ne dépassaient pas 50 personnes. C'est parlant quand même, ça doit nous encourager. Et Heidi Baker, elle disait le message qu'on avait entendu à Paris et qu'on était plus de 20 à entendre dans notre salon là, au Havrin. Où sont mes amoureux pour chercher mon église perdue? Et je crois que ça a réveillé quelque chose et on a vu ça tout de suite au culte de Pâques qui a suivi. Rappelez-vous, au culte de Pâques, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? Réveillé par le sentiment que chaque personne compte, on a offert des fleurs ce dimanche-là, vous vous souvenez? On a offert des fleurs aux voisins ici tout autour. Et on a vécu un culte si merveilleux que même Robert Rive qui était là disait « Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu assister à un culte comme ça », il disait. « C'est le meilleur culte auquel j'assiste depuis longtemps. » Et puis après, rebousculé dans cette révélation que chaque personne compte, on a voulu inviter des gens aux agapes et on a vécu des temps d'onction comme ça. Je crois qu'on a vécu un temps d'onction magnifique au baptême de Monique. Parce qu'on on avait à cœur d'inviter plein de gens. On a vécu un temps d'onction au culte de Noël parce qu'on a à cœur d'inviter plein de gens. Parce que dans ce souci que chaque personne compte, dès qu'on a ce souci, l'onction de Dieu vient. C'est clair. Si on devient replié sur nous-mêmes, l'onction de Dieu se retire. Si on commence à nous rappeler ce but, l'onction de Dieu revient. Les cours alpha, le succès des cours alpha, c'est incroyable, on était le week-end dernier. C'est incroyable. Enfin, qu'est-ce qui fait le succès du cours alpha? C'est le souci de vulgariser un enseignement pour des gens qui sont loin, loin des églises. Mais Dieu bénit ça. Dieu bénit. Il envoie son esprit. Il encourage. On l'a vu avec notre cours alpha ici chez nous. Ça a aussi apporté un petit quelque chose. Et c'était le pasteur Langlois qui l'a dit en introduction au week-end. Le Saint-Esprit bénit cette entreprise. Parce que dans ce souci que chaque personne compte, et donc chaque personne doit entendre le message, même celui qui est loin de l'Église doit l'entendre. Alors voilà, tout ça pour dire chaque personne compte pour Dieu. Et on a besoin de se relaisser saisir par cette vérité. Et c'est pourquoi nous avons à devenir contagieux. Et notre Église doit devenir contagieuse. Alors voulons-nous devenir une Église contagieuse? Réalisons au profond de nous-mêmes que chaque âme compte pour Dieu. Alors, la deuxième partie de ce message, les récompenses. Ah, on aime bien ça. Oui. Les récompenses. Alors, la récompense, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Ça, c'est sûr. Devenir un chrétien contagieux, je le dis en introduction avant de vous laisser sur les récompenses, il y a un prix à payer parce qu'il y a un temps, une énergie. Et si on veut avoir un témoignage efficace, on se rend compte qu'il faut lire, il faut méditer, il faut vivre en proximité de Dieu, il faut se préparer. On oppose souvent la spontanéité et la préparation. Moi, je crois qu'il faut rejoindre les deux, il faut arrêter d'opposer les deux. Je crois que le Saint-Esprit, quand par exemple je rencontre des gens qui pensent que toutes les religions sont bonnes, je n'ai pas toujours la réponse spontanée à leur apporter. Mais en lisant ce que d'autres ont préparé et ont réfléchi à ce sujet, en lisant certains ouvrages et en méditant ma parole et en me préparant, je vais trouver la réponse adéquate. D'accord ? Donc n'opposons pas, surtout pas, moi je me rends compte combien de fois le Saint-Esprit m'a béni, m'a oint dans des préparations, parce que je me suis préparé, hein, dans la prière, donc le Saint-Esprit bénit dans la spontanéité comme dans la préparation. Mais il y a un prix à payer, il y a du temps à passer, il y a peut-être un investissement en argent Peut-être on va. Voilà. Mais le prix à payer par rapport aux récompenses, je vous assure, vous allez voir, c'est vraiment minime. La balance, elle penche nettement du côté des récompenses. Nettement. Alors on va voir toutes ces récompenses. La première, la motivation. Quand on devient contagieux, notre vie chrétienne quitte la routine. C'est clair. Notre vie chrétienne quitte la routine quand on devient contagieux. Elle devient une grande aventure. La vie chrétienne redevient une grande aventure. Est-ce qu'on a cette vision d'une vie chrétienne comme d'une grande aventure? Ben oui, je le crois. Oh, c'est passionnant de voir des âmes qui s'ouvrent, de voir. C'est passionnant. Quand on commence à expérimenter les multiples aventures que le Seigneur peut susciter à partir des situations de tous les jours, on affronte aussi les tâches quotidiennes avec une motivation nouvelle. Ah, oh, aller au travail aujourd'hui, ah, oh, c'est pénible. Non, c'est pas pénible si je suis ambassadeur pour Dieu, si je suis un point de lumière, et si je vois des gens qui s'ouvrent au message, à mon témoignage, même si c'est pas d'une manière éclatante tout de suite. Et petit à petit, on a hâte de voir comment le Seigneur va nous surprendre. Il y en a qui sont plus évangélistes que moi parmi nous ici, et je crois que quand on entend leurs récits, on est passionné. C'est passionnant. Je pense à Joël, Monique, là, c'est passionnant. Philippe aussi. Hein, vous êtes évangéliste et c'est passionnant, quelquefois, ce que vous racontez. Et même les circonstances et les événements difficiles derrière, on discerne la main de Dieu. J'ai lu quelque temps comment des chrétiens ont été pris en otage par des bandits, puis avec un pistolet braqué, comment Dieu a transformé cette circonstance. Et les bandits se sont convertis, quoi, dans la voiture. Parce que ceux à l'intérieur ont vu, à travers même cette circonstance difficile, que c'était dans le plan de Dieu. Vous vous rendez compte? Bon, je dis ça, Joël, si on, en prenant l'avion au mois d'avril. Je ne vais pas plus loin. Voilà. C'est extraordinaire de réaliser que ce que nous faisons chaque jour a un sens dans la grande fresque de Dieu. Ça a un sens. Alors la motivation, mais je vais plus loin. La récompense et la plénitude. On a un sentiment même de plénitude. Quand on se met à se consacrer corps et âme pour les perdus, à discerner le plan de Dieu dans les événements, on a vraiment le sentiment d'être utile. On a un sentiment de plénitude. Qu'est-ce qu'il y a de comparable? Hein, l'expérience d'être un instrument de la main de Dieu, je ne vois pas ce qui est comparable. Pour communiquer son amour, partager sa vérité à ceux dont il s'est soucié, hein, au point de mourir pour eux. Rappelez-vous ce que Jésus a dit quand il a rencontré à ses disciples, quand il a rencontré la Samaritaine. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Cette Samaritaine qui a embrasé tout un village avec son témoignage. Ouvrez vos yeux, dit Jésus, et regardez les champs prêts à être moissonnés. Autre récompense, la liste est longue, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Est-ce qu'il n'y a pas de l'insatisfaction chez beaucoup de chrétiens qui vient de cette sensation de ne pas beaucoup progresser tout en tenant bon dans la foi? Étudier la Bible peut devenir une corvée. Le miracle de la conversion, c'est un peu lointain. La prière, difficile. On peut aussi aller à l'église par devoir petit à petit. Mais quand ces croyants léthargiques sortent de leur isolement spirituel et rencontrent des personnes assoiffées, alors un changement commence à se produire. La lecture de la Bible redevient un plaisir. Il y a un plaisir retrouvé dans la lecture de la Bible. On se rend compte que ce qu'on reçoit nourrit les autres. Et donc c'est gratifiant. Et on retrouve, on a envie de se replonger dans les Écritures pour recevoir une nourriture, être nourri soi-même et continuer à nourrir les autres. et pour alimenter aussi des discussions spirituelles. Dans la prière, ça change aussi. On a une passion retrouvée parce qu'on voit des cœurs qui s'ouvrent. Alors on prie avec plus de ferveur, même pour des gens les plus endurcis. On a foi en Dieu, que Dieu bouge même, change le cœur le plus endurci. Et les prières dans lesquelles on mentionnait passivement les personnes deviennent vraiment des prières passionnées en faveur du salut de leurs âmes, en faveur du salut de nos amis. Et puis quand on constate un petit progrès spirituel, alors l'enthousiasme pour la prière ne cesse de croître. Notre désir d'adoration, d'adorer Dieu va aller grandissant aussi. Comment pas exprimer une gratitude envers Dieu, qui manifeste son amour avec tant de beauté et de patience à des rebelles, comme nous étions et comme sont encore la plupart de nos amis. Et je vois un quatrième avantage, quatrième, au niveau de la croissance. Quand on a conscience d'être ambassadeur pour Dieu, on a la conscience d'être observé aussi, et donc ça nous maintient dans une pureté spirituelle aussi. On veille à garder une conduite irréprochable, puisqu'on sait qu'on est observé. Donc ça nous maintient dans une pureté. Quand on voit Dieu agir autour de nous, on n'a pas envie que ces gens qui s'ouvrent soient un peu, je dirais, questionnés, interpellés par notre mauvais témoignage. Donc ça nous préserve dans une pureté spirituelle. Voilà pour la croissance. On continue la liste. Après la motivation, la plénitude, la croissance, autre avantage, l'assurance spirituelle. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Quand on fait des efforts pour communiquer notre foi aux autres, ça contribue à nous donner davantage d'assurance par rapport à nos convictions personnelles. Le fait de partager nos convictions nous oblige à nous préparer, à nous dire, bon, oula, alors lui, on est confronté, à toutes sortes de situations. Je pense, mardi, on était confronté, là, quelqu'un dit, toutes les religions sont bonnes. Qu'est-ce qu'on a à répondre? On aurait pu dire, je ne l'ai pas dit d'ailleurs ce mardi-là, ça ne m'est pas venu à l'esprit, j'en rageais après, mais si toutes les religions sont bonnes, Jésus n'est qu'un prophète. Et là, il y a un problème, parce que tout ce qu'il dit de lui, ça ne colle pas du tout. Et il est mort parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu. Il y a un problème. Donc il y a des réponses. Et donc, plus on prend conscience de la nécessité de se préparer, et on se préparait, je dirais même, ça devient plus clair pour nous aussi. Combien de fois j'ai pu constater ça? Quand je me suis préparé pour, par exemple, traiter d'un sujet comme bénédiction et malédiction, et pour témoigner à quelqu'un qui vit peut-être une malédiction, en me préparant, les choses deviennent plus claires pour moi. Vous avez constaté ça aussi? Les choses deviennent plus claires pour nous aussi. Quand on met sur papier, on se prépare. Et ainsi, on grandit en assurance, on a plus d'assurance. Et quand on réussit, on tient bon face à l'opposition spirituelle, on gagne en assurance. Et que dire alors, évidemment, lorsque quelqu'un devient chrétien? Point suivant. Nous avons, quand on devient chrétien contagieux, des investissements durables. Ça veut dire qu'on investit du bon côté. On investit du bon côté dans les personnes, dans le royaume de Dieu. Et là, revenons à la parole de Dieu, il faut lire ces deux textes, relire, bon. Ce sont des textes connus, mais là, il faut les prendre. On n'a pas trop lu la parole jusqu'à présent. Donc Matthieu 6, verset 19, je suis presque à la fin de ce message. Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas de trésors. » Donc ça parle d'investissement là, d'accord ? Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Mais il faut prendre en parallèle aussi 2 Pierre 3.10. 2 Pierre 3.10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour-là. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous pouvez faire une fois cette petite expérience sur tout ce que vous possédez, hein, votre ordinateur, votre maison, votre congélateur, votre chaîne Hi-Fi, votre belle voiture, vous mettez tous sur tous ces objets un autocollant et vous écrivez « voué à être détruit par le feu ». Bon, c'est un peu une blague, hein, mais ça fait réfléchir. Ça pourrait vous faire réfléchir, vous les laissez simplement une journée, en tout petit, oui. D'accord, le plus tard possible. Voilà. Mais voyez, hein, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Où sont nos investissements? Où nous investissons? Où nous investissons? Dans nos possessions ou dans les personnes que le Seigneur convoite pour l'éternité? Ça fait vraiment réfléchir. Quelle erreur d'investir tant de temps et d'énergie dans des choses qui ne vont pas durer. Prenons la décision, hein, d'orienter notre vie vers les choses qui durent vraiment. Dieu, son royaume, les gens comme vous et moi, et ceux auxquels nous parlerons de lui. C'est cela qui doit mériter notre attention. Alors voilà, j'en arrive à la conclusion. Acte 1:8. Le Seigneur qui dit à ses disciples avant de partir, et je pense que ses disciples ont dû dire à un moment, ils ont dû se retourner tous, ils ont dû dire, est-ce c'est vraiment à nous qui parle ou est-ce que c'est à d'autres? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'au bout du monde. Quelquefois on a tellement un sentiment d'indignité qu'on ne croit même pas cette parole. On ne croit pas ces paroles. Dieu nous a choisis. On a entendu ça récemment, hein. Dieu nous a choisis. Il nous fait le grand honneur de parler en son honneur, en sa faveur. Et il nous a promis de donner la puissance pour le servir, accomplir ses plans. Même si, bien sûr, il y a un effort de préparation, prière, c'est quelque part son affaire. Que d'aller chercher les perdus, c'est son affaire. C'est son affaire, il nous a choisis pour ça. Il nous a choisis pour être ses canaux pour aller chercher les perdus. On ne peut pas se disculper, non, il nous a choisis. Aussi faibles que nous sommes, aussi indignes que nous pouvons nous sentir, il nous a choisis pour devenir un chrétien contagieux. En nous récompensant et en touchant le cœur des autres. Les récompenses indiquent que nous y gagnons. Les autres y gagnent aussi des petites choses, comme simplement le fait d'être délivré de l'enfer. C'est pas grand-chose, hein. C'est énorme. Nous y gagnons. Les autres y gagnent. Et Dieu y gagne par-dessus tout. Rappelez-vous, la joie qu'il y a dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Dieu y gagne, il y a de la joie quand il voit son Église rejoindre son plan. Avoir ce souci que chaque personne compte. Une maman, même si elle dépense beaucoup pour son enfant, ne va pas se priver de son enfant et de la joie d'avoir son enfant. Malgré toutes les dépenses, quelque part, on est comme des parents spirituels. Même si on doit beaucoup dépenser, on ne veut pas se priver de la joie de voir les enfants venir vers le Père. D'accord? Voilà. Alors on va se recueillir. Annette va introduire la scène un peu en liant avec ce message maintenant qui a été donné. Et on aura l'occasion de faire une démarche vis-à-vis de Dieu.
Non, simplement les points que Jean-Luc a dit. Je crois qu'il faut nous souvenir qu'on était cet enfant perdu nous-mêmes. On était cet enfant perdu et que Dieu s'est mis en peine pour nous retrouver. On était cet enfant perdu finalement. Toute l'énormité de la dette finalement, on était cet enfant perdu. Donc souvenons-nous justement en prenant la scène qu'on était cet enfant perdu et qu'on comprend que chaque personne en dehors compte pour Dieu. Finalement c'est ça, C'est nouveau aussi pour moi, enfin, tout d'un coup, de réentendre que chaque personne du dehors, chaque personne que je rencontre, compte pour Dieu, même si pour moi, des fois, le regard n'est pas toujours beau, je veux dire, par rapport à cette personne, mais pour Dieu, elle compte, cette personne compte. Et je trouve que c'est important de prendre cette scène dans cet esprit-là, hein, et qu'on demande à l'Esprit Saint vraiment cet amour passionné pour les perdus, cet amour passionné pour nos voisins, pour nos amis, pour les membres de notre famille, qu'on ait vraiment cet amour et qu'on veut, oui, qu'ils vont pas en enfer, quoi, faut dire les mots, on n'a pas envie de ça du tout, on a envie qu'ils soient sauvés. Donc on ait cet amour passionné que vraiment Dieu nous donne dans notre cœur, hein, et qu'on soit rempli vraiment de cette assurance du mandat qu'il nous a donné, hein, d'aller chercher les perdus, parce qu'il nous a choisis. Il nous a choisis, Mario nous l'a dit, il nous a choisis. Alors, ben nous, qu'en retour, qu'on aille chercher les perdus. Voilà, que Jésus à la croix a donné sa vie pour les perdus, et qu'on prenne vraiment la scène dans cet esprit-là. Que Jésus, moi j'étais perdue, Jésus est mort pour tous les perdus, et que chaque personne compte pour Dieu. On a un moment vraiment de réflexion personnelle, de prière personnelle pour nous souvenir de ça.